Bonjour, vous êtes bien sur Radio Saint-Ave. Je m'appelle Guillaume et vous êtes avec moi pour la nouvelle émission Captain Potager, l'émission enragée. Nous allons nous retrouver chaque mois pour découvrir ou redécouvrir le potager et tenter de devenir des héros de la bêche, des rois du compost, des seigneurs de la terre et de l'humus. Quand je pense que Néandertal mangeait bio, c'est fou, non? Le gars, il était vêtu de peau de bête, il sentait. Non, pardon, il puait le bouc et encore c'est faire insulte au bouc qui est d'ailleurs une espèce magnifique. Ce gars qui vivait de cueillette, de chasse, qui vivait dans des grottes, celui qui avait des grands cheveux hirsutes et qui pousse des cris en faisant « Ah, ouh, ouh !» C'est pour dire, le mec, il n'avait pas d'iPhone. Internet, ça se résume à taper sur un tam-tam et le Minitel a des signaux de fumée. Le mec, il connaissait pas l'agriculture. Eh ben, lui, il mangeait bio tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe de manger bio. Quand je discute avec des citadins, beaucoup me disent « le bio, ils sont bien gentils, mais j'ai pas la thune de manger bio tous les jours. T'as vu le prix ?» Putain, Néandertal, le gars recouvert de peau de bête, il avait les moyens de manger bio tous les jours. Il est fou. Si au Moyen-Âge, les paysans avaient inventé le bio et le pas bio, ils auraient fait fortune avec les seigneurs qui se seraient battus pour manger du bio et laisser aux gueux, bouseux et autres raclures le pas bio. Hep, ceux qui nous gouvernent, là, ils mangent bio ou ils mangent pas bio ? Oh punaise, je suis une raclure, une pauvre raclure. Oyez, oyez, raclure du monde, c'est-à-dire un peu tout le monde sauf ceux qui ont les moyens de manger aux fouquettes. Devenez des seigneurs de la terre et de l'humus en faisant votre potager. Tendez un doigt vers la France d'en haut et la main vers la France d'en bas. Voici notre nouveau slogan, mes amis. Mangez du bio pas cher et tous les jours en écoutant les conseils de bouche de jardinier à oreille de néophyte pour que ce savoir ne tombe pas dans l'oubli. Je vous propose de découvrir cette émission en plusieurs volets. Nous irons tout d'abord voir Fabrice, ancien maraîcher, puis nous continuerons par les petites astuces secrètes de Captain Potager. Rencontrons tout de suite Fabrice. Alors Fabrice, quels sont les moyens de lutte contre la sécheresse ?
Pour lutter contre la sécheresse, je crois qu'on n'applique jamais assez le bon recours du paillage, qui est très important. Même en hiver, contrairement à ce qu'on pense. Le paillage peut à la fois jouer le rôle de garder le sol, la croûte, du moins hors du gel, ce qui est important. Comme ça, on peut cultiver quasiment jusqu'au mois de décembre. Moi, c'est ce que j'ai déjà vu ici dans la région. Et puis, éviter aussi les apports en eau et la déperdition de par le vent.
Alors tu me disais tout à l'heure en off quand on discutait tous les deux, tu me disais que tu avais réussi à faire pousser des salades même jusqu'au mois de décembre à des restaurateurs. Tu avais pu fournir jusqu'au mois de décembre des salades.
Voilà, alors pas vraiment, enfin la salade, pas le produit fini, mais du mesclun, c'est-à-dire de la jeune pousse de salade. Entre autres, celui que l'on faisait était composé, donc il y avait deux variétés de laitue, deux variétés de chicorée, de l'épinard et de la roquette qui pousse même très bien, dès 7 degrés, ça tient au sol.
Alors il faut une petite période de froid, non, pour que la salade puisse se lancer au départ. Si on veut semer maintenant de la salade, est-ce que c'est trop tard ou ça peut passer?
Alors suivant où on habite, parce que c'est vrai que dans la région, on peut très bien habiter aux alentours de Saint-Afrique, ça va être 200 ou 300 mètres d'altitude, voire un peu plus haut même sur 600 mètres d'altitude. Je sais que pour ma part, j'ai semé moi au plus tard de la salade le 15 octobre pour la récolter. Par contre, la salade de la rougette, hein, une variété qui est assez connue dans la région, pour la récolter début mars, bien sûr paillée toujours. Hein, sous paillis directement, en fin de compte, on sème directement en pleine terre, et ensuite on paille, on surveille les levées. Dès que la salade commence à lever légèrement, même si elle fait il y a juste 4 feuilles, on écarte légèrement la paille. Et arrivé au beau jour, dès les premiers beaux jours du mois de mars, voire fin février, la pomme se forme et on a des salades dès début mars. Pratique, moi je sais qu'à l'époque, les gens étaient étonnés de voir des salades début mars, entre autres de la rougette.
Et qu'est-ce que, là pour novembre, est-ce qu'il y a des variétés qu'on peut planter ou pas encore? Ou est-ce qu'il faut vraiment une période de repos pour le jardin?
Alors, pour la plantation, moi, le mois de novembre, c'est risqué. Par contre, pour tout ce qui est germination, c'est encore une période. Enfin, surtout avec le mois de novembre dont on bénéficie aujourd'hui. Hein, si ça reste sur cette lancée-là, le seul problème qui va se poser, ça a été en effet les apports en eau. Parce que normalement, on est quand même aussi dans une période où normalement, il y a la pluie, chose qu'il n'y a pas en ce moment. Le risque sur les arrosages, c'est bien sûr si la nuit, la température descend de flamber les plants avec d'arrosage. Hein. Donc toujours pareil, faire germer sous petit châssis, ou éventuellement même sous voile d'hivernage directement, que l'on peut couvrir la nuit venue. Je pense qu'ici, oui, on peut quasiment cultiver toute l'année. Je crois que les gens n'ont pas tellement conscience qu'on est vraiment au sud ici quand même.
Tout à l'heure, on avait évoqué entre nous les engrais verts. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu en as fait pousser comme variété ? Est-ce que ça avait marché ? Raconte-nous un peu ton expérience sur la petite expérience que tu as sur les engrais verts.
Alors, la petite expérience que j'ai sur les engrais verts, moi, ça a été des engrais de printemps. De compte. Il y a un semis qui s'est fait courant février, entre autres sur la moutarde, pour être enfoui après donc on laisse lever, on fauche, on laisse sécher et on introduit ça dans le sol aux alentours du mois de mai pour la culture qui va venir après.
Voilà. Est-ce que tu avais broyé ou
fauché, laissé sécher sur le sol et enfouir. Alors pas un labour, même pas un labour, hein, c'est comment dire, une fois la paille sèche, elle se casse, et s'il y a une pluie dessus, en plus, les éléments nutritifs vont aller dans le sol, il n'y a pas de souci.
Voilà. Et ça permet d'apporter un peu d'azote, qu'est-ce que ça permet la moutarde ?
La moutarde, en tout cas, moi j'ai utilisé, par exemple, sur les cultures qui allaient être ensuite des cultures, par exemple, haricots verts. Sur le haricot vert, moi je trouvais que ça avait avant le haricot vert, ça avait un effet fantastique. Voilà. Moi, c'est le seul cas où j'ai utilisé la moutarde. La févrole, on l'avait essayé sur une petite partie, mais on a été un petit peu débordé à l'époque. Donc ça a pris un peu trop d'ampleur à notre goût. L'expérience concluante que j'ai eue, c'est de la moutarde. Voilà. C'est pas mal du tout. Je sais que par la suite, la parcelle sur laquelle j'avais placé le haricot vert, on l'a réutilisé ensuite pour mettre du petsai, un chou chinois.
D'accord.
Voilà. Sans pour autant rapporter un apport en fumure ou quoi qu'est-ce. Et le petsai, on l'a eu ramassé aux alentours du mois de novembre, par là. Voilà.
Est-ce que c'est le moment de retourner sa terre, d'apporter du fumier, d'apporter du compost quels sont les apports qu'on doit mettre pour ce mois-ci ?
Alors, en temps normal, ça devrait être la période où justement on commence à épandre le fumier sur la parcelle. Voilà, pour qu'il se décante avec le gel qui devrait arriver, avec l'humidité des pluies qui devraient tomber.
Et est-ce qu'il y a besoin d'enfouir assez profond le fumier ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser en surface pendant l'hiver ?
Alors, personnellement, nous, on pratiquait ainsi. On mettait le fumier en surface, on attendait en effet que le gel et la pluie passent dessus. Et au moment des plantations, par exemple en ce qui concerne les salades, donc repiquage au printemps, on l'enfouissait légèrement, en cassant la croûte du sol, et on cultivait à même quasiment la couche. Voilà. Hein, toujours en paillant et toujours en paillant. Moi j'ai vraiment le paillage, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. On a paillé avec, entre autres, à l'époque on a commencé à pailler avec des déchets de tonte de gazon. Et tout. Alors ça c'est très bon l'été surtout parce que ça apporte au niveau du sol vraiment un côté fraîcheur qui fait l'eau ne s'évapore pas tout de suite, c'est une bonne couche de ton gazon. En hiver, moi j'ai préféré toujours par contre la paille de blé qui était vraiment utile et qui maintient une température au sol qui est pas mal du tout. Comme je disais tout à l'heure, la première année c'est qu'on a pu avoir du mesclin jusqu'au mois de décembre et pourtant on était quand même à 600 mètres d'altitude. Moi, le paillage, pour moi, c'est le. Je dis pas que c'est la clé de tout, mais ça.
La révolution.
Bon, c'est pas la révolution non plus, non. Non. C'est un truc qu'il faut. Qu'il faut avoir à l'esprit en permanence. Voilà. D'ailleurs, la terre, on ne voit jamais la terre sans rien dessus. Une terre qui est découverte, qui est nue, en fin de compte, c'est une terre généralement stérile, où il n'y a rien qui pousse.
C'est voilà. Quoi, c'est le soleil qui brûle le sol ou
les caractéristiques chimiques qui s'effectuent au niveau de la terre, là je ne les ai pas en tête, c'est pas moi qui ai pris les cours d'ailleurs. mais on le voit dans la nature, hein. le sol n'est jamais à nu. Il y a toujours une végétation, une plante qui pousse dessus, qui va coloniser. La nature a horreur du vide. Hein. Quand on voit certains potagers où vous avez les légumes bien alignés, avec autour de la terre bien brune, tout ça. Voilà, bon.
Des fois, tu me disais que, des fois, en regardant un peu les mauvaises herbes qu'il y a dans un terrain, on peut deviner la nature de son sol.
Alors, on peut avoir une idée. De ce qu'il y a dans la terre. Par exemple, bon, moi, j'ai un truc là où, entre autres, qu'on cultivait, on avait beaucoup de ronces. Alors ça, il y en a pas mal comme dans le coin. Hein. Et ça, en fin de compte, c'est d'après ce qu'on a appris là-dessus, c'est un apport organique en matière d'origine végétale assez important. Et là, après, il y avait des arbres autour, les arbres perdaient leurs feuilles, en effet. Il y avait un humus qui était au sol, mais composé en grande partie de matière organique d'origine végétale, et il a fallu quand même plus ou moins amener de la matière organique d'origine animale, comme à l'époque on a utilisé de la corne broyée, entre autres, pour équilibrer un peu ce sol, voilà. Et c'était un bon jugement, quoi, d'apporter un peu cette matière-là qui manquait. Parce qu'après, on voit que certains légumes arrivent bien à se développer. Alors, par contre, le légume feuille, par exemple, va forcément se développer sur un sol en matière organique végétale fort. Alors que des légumes type fruits, après, par exemple, pour la tomate, tout ça, va avoir plus de mal à se développer. Meilleure expérience qu'on a eue avec la tomate, par exemple, sur un sol qui était riche en matière organique d'origine végétale, on a fait une expérience sur environ 200 pieds de tomate, de recueillir des déchets de poissons en poissonnerie et à la plantation, donc au mois de mai. Hein, voilà, on est hors.
Qu'est-ce que ça apporte, le poisson? C'est du phosphore, du...
Aujourd'hui, je me méfierais un peu de ce qu'apporte le poisson, parce que bon, vu là où il traîne,
ça dépend ce qu'il mange.
Ça dépend aussi ce qu'il mange. Mais vu là où il traîne et quand on connaît l'état des océans, bon, bah, j'aurais un grand doute. Il y a peut-être autant de phosphore qu'il y a d'antibiotiques, mais enfin bon. En tout cas, les tomates étaient jolies.
Les tomates aux antibiotiques, c'est la nouvelle variété de Fabrice.
Non, je rigole.
Alors, qu'est-ce que t'as apporté de mettre du poisson un peu dans...
Ce que m'a apporté de mettre le poisson au pied des tomates, déjà, c'est la risée de beaucoup de personnes autour de nous qui se demandaient comment c'était que nos tomates allaient avoir le goût de poisson, bien sûr. Et j'aurais simplement demandé que lorsqu'ils plantaient du fumier au pied de leur tomate, j'aurais demandé si leur tomate avait un goût de merde, quoi.
C'est pas faux.
Voilà, non mais les tomates, voilà, bon, est-ce qu'elles ont mieux poussé si j'avais mis du fumier de cheval? J'en suis pas convaincu, voilà, mais bon, apparemment, sur ce sol qui était donc riche en matière organique végétale initiale, le fait d'avoir mis un poisson, alors on sait aussi, comment dire, on s'est renseigné par l'article, cette tradition de mettre du poisson au pied des tomates vient des Indiens d'Amérique du Sud. Ils mettaient du poisson au pied des tomates et on a voulu essayer pour s'amuser. Et c'est vrai que le résultat a été assez sympa. Voilà. On a eu des belles tomates, pas trop de maladies en plus. Est-ce qu'il y a eu du phosphore dans le poisson? Vraiment, comme on le dit. Ou est-ce l'antibiotique qui a fait effet? Mais voilà, bon, on a eu des belles tomates, entre autres sur des variétés type cœur de bœuf, avec en plus des arrosages. Là, on parle quand même de l'année 2003. Donc, on s'en souvient bien, c'est quand même une année de sécade. Ça ne rajeunit pas. Où on n'avait pas beaucoup de pluie. On a toujours tablé sur, ça va peut-être faire crier certains, un pied de tomate, un plant de tomate, normalement, en intensif, on dit toujours, c'est entre 6 et 9 litres d'eau par jour. Je pense qu'en cultivant raisonnable, 3 litres d'eau suffisent, bien sûr avec le paillage. Et voilà, bon, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu de très jolies tomates. Voilà. On a fait, ça dit, l'expérience sur 200 pieds, hein, c'est tout. Hein, voilà.
Quelles sont tes variétés un peu préférées, on va dire, dans les tomates et les autres variétés que toi, que tu affectionnes particulièrement?
Alors sur la tomate proprement dit, bon, c'est vrai qu'on n'est plus vraiment de saison là. On va dire maintenant que je reste très traditionnel. Il y a donc la cœur de bœuf. Moi je trouve que c'est une tomate qui est excellente. Tout ce qui est noir de Crimée. Il y en a une aussi qu'on a pris pour vraiment côté rendement, parce que c'est quand même important pour nous. C'était la prune noire, qui fait donc une grappe et qui a un petit peu la même couleur noire que la noire de Crimée, tout en ayant la forme un petit peu allongée d'une olivette. Voilà, c'est la variété de tomates que l'on a le plus cultivée et avec lesquelles on s'est vraiment le plus régalé, ça a été celle-ci.
Pour les pommes de terre, on en discutait tout à l'heure, tu me disais qu'en fonction des arrosages, elles sont plus sucrées ou moins sucrées.
Ouais, enfin moi, c'est un truc qu'on a remarqué dans les pommes de terre que l'on achète un petit peu partout. On s'est demandé pourquoi on remarque que les pommes de terre, plus ça va, plus elles ont un goût sucré. Et on a eu une information comme quoi, en fin de compte, c'est à la fois l'arrosage et à la fois ce dans quoi on les cultive qui leur donne ce goût sucré. Il y a paraît-il le légume, quand il se développe, entre autres la racine, Alors, je sais pas si plus il y a d'apport organique, moins il y a d'apport organique. Enfin, plus il y a d'apport organique, plus il y aura tendance à synthétiser du glucose. Et donc, de ce fait-là, avoir un goût beaucoup plus sucré. Voilà.
Et alors, donc toi, tu avais 4 hectares de potager, quoi. Là, c'est du maraîchage. Pour une famille, on va dire, qui serait un peu dans la galère, tu conseillerais quel espace et quelle variété en priorité pour arriver dans des situations économiques qui sont aujourd'hui un peu difficiles, pour arriver un peu à s'en sortir, mettre un peu, on va dire, du beurre dans des épinards, mais plutôt des épinards dans le beurre.
Alors, pour une famille de 4 personnes, on va dire, oui, non, je pense qu'une une surface 500 mètres carrés, ça a commencé à devenir intéressant. Je pense que ça peut mettre à l'abri quand même de l'achat de pas mal de légumes. Hein. Bien sûr, il ne faut pas non plus aimer l'ananas, parce que sinon dans la région, ça ne poussera pas. Mais donc voilà, donc, ouais, 500 mètres carrés, moi je pense pour une personne, c'est pour une famille de 4 personnes, il y a le métier à la fois de la culture, mais il y a aussi tout ce qui est bien sûr conditionnement. Enfin, stérilisation, congélation, pourquoi pas. Ça demande quand même déjà pas mal de boulot. Voilà. C'est, pour une famille, je pense que voilà, 500 mètres carrés, c'est une jolie parcelle.
Et quelle variété on pourrait mettre dedans ?
Des variétés actuelles ?
Des variétés, alors par exemple en novembre, là, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ? Et après, au fil de l'année, quelles sont les meilleures variétés qui sont intéressantes à mettre dans leur potager ?
Alors moi, déjà pour le mois de novembre, là, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, alors, je passe à durer. Moi, j'oserais, mine de rien, pour, entre autres, le navet. Parce que c'est un légume qui est un peu oublié. Mine de rien, lorsqu'il est bien cultivé, c'est un légume aussi qui est très bon. Alors, bien sûr, on reproche souvent au navet son côté fibreux et tout ça, mais ça, malheureusement, c'est si, et là, la clé est là aussi, c'est s'il n'est pas bien arrosé ou si, malheureusement, il y a un défaut en irrigation, le légume va faire de la fibre, voilà. Bon, je sais pas, c'est bien de cultiver quand même son jardin, mais il faut aussi encore que ce soit bon. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va cultiver son jardin, on va dire ouais, ok, d'accord, je porte pas d'eau. Si derrière le truc est bouffable, je vois pas l'intérêt. Il faut pas non plus rentrer dans.
Faut que ce soit mangeable quand même.
Faut que ce soit mangeable quand même. Le but du jeu, initialement, il est quand même là. Hein, voilà. Sinon. On n'aurait pas survécu, je pense que l'espèce humaine serait éteinte depuis longtemps. Hein. Mais voilà, donc non, il faut. Moi, ce que je miserais là sur la saison, c'est sur du navet, parce que je crois que c'est un légume qui est sympa. La pomme de terre, ça on l'oublie, les tomates on l'oublie, hein, bien sûr.
Pour la saison, quoi.
Pour la saison, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, bon, il faut aussi miser sur les salades, les petites salades à couper. Moi, je crois que sur une petite parcelle, avec un voile d'hivernage, pourquoi pas mettre quelques pieds de salade coupée, ou même directement le semer très serré, et ajouter quelques graines de radis avec, pour pouvoir dédoubler en toute facilité. Et en fin de compte, quand le radis est levé, qui lève très rapidement, en fin de compte, on le dédouble, et de suite, la salade a plus de place. Qu'est-ce qu'on peut faire encore cette saison ? Cette saison, c'est particulier. Parce qu'après, voilà,
Le travail du sol.
Ouais, après, c'est le travail du sol. Voilà. Après, on va retourner sur la partie, entre autres, là, dès le mois de fin janvier. Après normalement, qui devrait être la période de froid, fin janvier, début février, on va arriver éventuellement sur les micro-labours pour enfouir un peu le fumier qu'on aura épandu. Là, en ce moment, ça va être délicat en semis, voilà.
Peut-être un peu les fèves, parce que est-ce que ça peut résister l'hiver ? On m'avait dit comme ça que les fèves, ça peut durer jusqu'à moins 10 degrés, ça peut arriver à passer l'hiver.
La fève peut arriver à passer l'hiver. Le seul souci pour la fève, en effet, c'est plus les cultures de printemps qui sont en péril à cause des moucherons. Parce que ça, s'il y a un moucheron dans le coin, c'est la fève qui a le chopé. La fève, on n'a jamais trop essayé la fève, hormis la fève de printemps, en effet, que l'on mettait, nous, en terre de bonne heure. On la mettait courant janvier, il me semble.
Voilà. Ah
oui, mais l'avantage de la fève, c'est qu'on enterre la graine quand même assez profondément. Enfin, profondément.
10 cm
10 cm ouais, de terre. Donc, et puis c'est vrai qu'elle tient bien le gel. Le plan tient bien pour les récolter les fèves aux alentours du mois de mars-avril. Voilà, les premières fèves. Hein.
Ah, c'est un bon rendement.
Ouais, c'est un bon rendement. Mais bon, après, il faut vite les retirer par contre. Parce que ça, quoi, pour attirer les pucerons, il n'y a rien de mieux. Quoi, voilà.
Et oui, c'est souvent les fèves qui prennent les moucherons. Merci beaucoup Fabrice qui a bien voulu que je l'interviewe. Je vous propose d'écouter maintenant une petite musique de ma sélection et on se retrouve juste après. Alors vous êtes toujours sur Radio Saint-Aff en train d'écouter Captain Potager, l'émission Enragée. Vous le savez peut-être, on en parle sporadiquement dans les informations, mais nous sommes dans une crise financière et sociale. Eh oui! Mais rassurez-vous, grâce à notre gouvernement, nous avons réussi à gagner quelque chose. Une chose rare que beaucoup ont cherché en vain. Beaucoup sont morts dans l'espérance de cette découverte qui changerait à jamais la face du monde et celle de l'humanité tout entière. Il ne fallait pourtant pas se lancer dans la recherche scientifique, il fallait tout simplement dépenser l'argent, faire des crédits, créer des niches fiscales, inventer une monnaie unique, installer la tolérance zéro, remplacer le RMI par le RSA, organiser le comeback de Juppé, vendre l'hippodrome de Longchamp, reculer l'âge de la retraite, augmenter la TVA, augmenter les jours de carence en cas de maladie, pour que l'on puisse enfin remonter dans le temps. C'est la dernière invention de notre gouvernement qui a lieu il y a quelques semaines. Nous sommes revenus en 1945. C'est Fillon qui l'a dit. La France va connaître une rigueur qu'elle n'a jamais connue depuis 1945. On peut dire que ça a servi de faire l'ENA. Revenir 66 ans en arrière, c'est une chose rare. C'est du progrès, ça vaut bien un triple A, non ? J'ai été heureux d'apprendre que j'avais moins 42 ans. On peut dire que c'est pas demain que j'aurai ma retraite. Et dernier scoop, les Français et les Françaises sont en meilleure santé. Ben oui, on a rajouté des jours de carence. Moi, je propose 7 jours de carence pour une grippe, 8 semaines pour une jambe cassée et 6 mois pour le cancer. C'est bien ça, non? Bon allez, arrêtons les coups de gueule. Aidons-les, faisons nos potagers, armons-nous de nos bêches, grelinettes, serfouettes et créons de la croissance dans nos jardins. On pourra enfin dire qu'il y a au moins quelque chose qui va de l'avant en France. Justement, allons rejoindre tout de suite Captain Potager pour ses nouvelles aventures.
Dans la dernière émission, j'ai évoqué le lieu et les conditions de ma naissance. Le jour où je suis devenu Captain Potager. J'ai eu envie de retourner sur ce lieu sacré, vénéré par tous mes prédécesseurs, car je suis loin d'être le premier Capitaine Potager. Ce n'est qu'à la mort du Capitaine Potager qu'un nouveau voit le jour dans cette forêt. Il se trouve que ce jour-là, c'était moi, qui étais dans ce lieu magique. Cette forêt est la source de la puissance de Capitaine Potager. Or, j'essaye de me recueillir. J'ai déjà donné dans le zen, le zazen, la relaxation, la méditation, le nirvana, la transe, le yoga, porter des bracelets de relaxation, les massages, mettre des huiles. Tout ça, c'est des trucs à la Marie Claire et à la mode des travaux. Moi, pour me recueillir, je le fais à l'ancienne. Une bonne murjasse à l'éliqueur du Narzac. Tu te lèves doucement pour pas vomir. Ça, c'est très important. Puis tu fermes les yeux, doucement. Jusqu'à oublier qui tu es. Puis, un pas après l'autre, tu avances, toujours en fermant les yeux. Après, tu commences à accélérer, jusqu'à courir, et là, forcément, tu te prends un arbre. Et là, t'es au nirvana. J'ai fait un voyage intercosmique galactique mystique gueule de bois. Et pendant mon voyage, je me voyais en train de faire mon compost. J'avais mis des résidus de récolte, du bois broyé, des feuilles, du fumier, des déchets de cuisine. Je faisais alors attention de bien équilibrer tous les déchets. Et j'ai mis tout ça en tas, en mélangeant les matières pauvres et riches en azote et les matières sièches et humides. Sans oublier de temps en temps de mettre une pelletée de terre ou de poudre de roche. Et une fois terminé le tas, je recouvrais d'une bonne couche de paille ou de terre et j'arrosais le tas pour qu'il soit humide. Et au bout de quelques jours, la température aurait atteint 50 à 60 degrés. Mon voyage continua ainsi toute la nuit. Ce n'est qu'au réveil que je me suis souvenu d'une astuce contre les lapins qui nous mangent les salades. Il faut mettre quelques cheveux dans un grillage pour pas qu'ils s'envolent, juste à côté des légumes. Bon, c'est pas tout les gars, mais je me casse. Je reviens le mois prochain pour vous aider et vous raconter mes nouvelles aventures.
Merci Captain Potager pour ses illuminations mystiques et ses conseils potagistiques. Vous venez d'écouter l'émission mensuelle Captain Potager, l'émission enragée sur Radio Saint-Afrique. Pardon, excusez-moi, je tiens à ne pas m'excuser, cela dit, pour tous les dérapages qu'il y a pu y avoir dans l'émission. Vous l'aurez compris que l'émission est de découvrir le potager d'une manière différente, moins conventionnelle, mais plus engagée, plus rock et avec toujours les bons conseils de bons jardiniers. Je remercie toute l'équipe de Radio Saint-Af qui m'a aidé à faire cette émission. Pendant l'émission, vous avez écouté les moutons de Manpanta et on se retrouve quant à nous le 17 décembre. Ciao !